industrielle. Une émission réalisée et animée par Roland Bensoussan.
Chers amis, bonsoir. Roland Bensoussan, micro de Judaïsme Pluriel, pour une heure à passer en votre compagnie, comme tous les mercredis soirs de 20h à 21h. Ce soir, rôle des femmes juives dans l'émancipation des femmes à Marseille. Avec René Dré Bensoussan. Pour fêter les 25 ans du Carré des écrivains, le comité du Vieux Marseille a demandé à 25 écrivains de rédiger un texte ayant pour cadre Marseille. Le résultat est un livre paru en octobre 2016, dont le titre est bien sûr « 25 ans d'histoire de Marseille » aux éditions du Vieux-Port. Une des contributions est celle de René Dré Bensoussan sur le rôle des femmes juives dans l'émancipation des femmes à Marseille. J'ai donc demandé à René de bien vouloir être ce soir avec nous au micro de Judaïsme Pluriel pour nous parler de ce rôle des femmes juives. Et bien sûr, ça fait partie de ces deux axes de recherche. Vous le savez, le premier, c'est la Shoah et le deuxième, c'est les femmes. Bonsoir René et merci d'être avec nous ce soir.
Bonsoir.
René Dré Bensoussan, vous la connaissez. Maintenant, elle est intervenue plusieurs fois. Elle est historienne, agrégée et docteur en histoire contemporaine, auteur de plusieurs livres sur la Shoah à Marseille, présidente de ARES, Association pour la recherche et l'enseignement de la Shoah, devenue d'ailleurs incontournable sur ce thème par ses actions dans le milieu éducatif tout au long de l'année, au lycée, au collège, et aussi par son université d'été annuelle qui fait intervenir des spécialistes marseillais de la France et même internationaux. Alors, vous pouvez la rejoindre aussi tous les mercredis soirs, j'allais oublier René, tous les mercredis à 11h, pour Portrait de femme avec Elsa Charbit. Voilà. Alors, puisque nous avons parlé de l'université d'été, René, est-ce que tu as déjà un titre pour la prochaine université ?
Oh oui, depuis déjà l'été précédent, la rencontre du 11, 12 et 13 juillet 2017 à l'ESPE, c'est-à-dire à l'ex-UFM,
toujours pareil, voilà,
portera donc cette année sur la Shoah et la rencontre des cultures.
Ouf, c'est un sacré programme.
Oui, oui.
La rencontre des cultures. Très bien. Bon, bah écoute, René, on viendra pour cette université d'été. Voilà. Alors donc, ce soir, nous parlerons du rôle des femmes juives dans l'émancipation des femmes à Marseille, dans l'émancipation des femmes en général, bien entendu, à Marseille. Et première question, dans l'histoire des juifs à Marseille, quelle est la place des femmes ?
Alors, la communauté juive est implantée au moins depuis le 1er siècle dans la cité phocéenne. Et on peut suivre son histoire, je dirais une histoire à trous, depuis l'Antiquité jusqu'à son expulsion du Royaume de France, puis depuis son retour au 18e, 19e jusqu'à nos jours. Et dans cette histoire, les femmes n'ont pendant longtemps occupé qu'une très très petite place. Elles n'émergent qu'au 19e, comme leurs consœurs chrétiennes. Mais fort heureusement, des travaux récents viennent contredire cette vision globalisante et générale. Alors, je veux citer en premier les travaux de Daniel Yankou, qui a fait émerger des portraits de femmes sortis tout droit des archives notariales du Moyen-Âge. Je veux parler aussi de Juliette Cibon, qui nous a offert une magnifique thèse sur les Juifs à Marseille au XIVe et qui a pu dévoiler quelques figures féminines en précisant que l'exclusion des filles des biens paternels n'est pas mécanique. L'immobilier passait souvent par les femmes, bien qu'elles soient d'éternels mineurs. Et selon la même logique, les femmes juives sont très présentes sur la scène économique, formant équipe avec leur mari ou bien seules, menant leurs affaires surtout quand leur mari était décédé. Et si la naissance de nombreuses filles est considérée comme un désastre économique du fait du poids des dots, les filles jouent un rôle patrimonial par le versement de cette dot, justement. Enfin, de son côté, la Canadienne Francine Michaud a retrouvé la trace d'un étonnant médecin qui s'appelle Sarah de Saint-Gilles et qui l'a découvert à travers un contrat qui liait Sarah de Saint-Gilles à un étudiant venu suivre sa pratique pour être à son tour médecin. Mais je crois qu'il faut borner notre étude aujourd'hui à l'époque contemporaine et surtout de la Troisième République à 1945 pour essayer de dévoiler le rôle complexe des femmes juives marseillaises au sein de leur propre communauté d'abord et au niveau des enjeux et débats nationaux ensuite.
Oui, j'ai deux petites questions à te poser. Tu as dit tout à l'heure que l'histoire des Juifs était une histoire à trous. Mmh. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à certaines périodes, ils disparaissent?
Ah oui, ils disparaissent lors de l'expulsion des Juifs. Alors, la terre de Provence a pendant longtemps été un lieu de refuge, mais quand cette terre de Provence devient française, eh bien, l'édit d'expulsion des Juifs de France s'applique aussi aux Juifs provençaux et ils sont obligés de partir. Et donc, beaucoup partent pour les États du Pape et c'est ainsi que naît ce groupe qu'on appelle les Juifs du Pape. Mais il y en a d'autres qui partent pour la Turquie, pour les abords méditerranéens. Mais ce qui est important, et c'est pour ça que je parle d'histoire à trous, c'est qu'ils reviennent. En fait, ils n'ont jamais abandonné cette terre. Ils disparaissent officiellement, mais certains sont restés officieusement, quitte à prendre, à se convertir, au moins en surface. Mais c'est à trous parce que, en fait, ils ne font pas parler d'eux, au moins jusqu'au 18e. Fin 17e, Colbert donne la possibilité aux marchands de venir de faire leurs affaires à Marseille, dont les Juifs. Donc ils reviennent et c'est comme ça qu'ils vont revenir s'installer et s'installer définitivement fin 18e, 19e.
Oui, et tu parlais aussi de ces femmes dont les maris sont décédés et qui reprennent les affaires en main. Et je crois qu'on a un exemple très important à Marseille dont tu as parlé plusieurs fois et sur lequel tu as travaillé.
Oui, mais qui n'est pas juive. Cette femme, c'est Rosine Nolly-Pratt.
Voilà, tout à fait.
Alors, il y a la même chose chez les Juifs. C'est-à-dire que quand le mari décède, à ce moment-là, elles prennent en main les affaires et elles continuent de faire prospérer l'affaire. Mais dans le cas de Rosine, eh ben, c'est Rosine qui a fait Nolly-Pratt.
Ah, c'est carrément elle qui l'a fait.
Oui, c'était pas son époux.
Bien. Alors, à partir de quel moment les femmes juives émergent-elles et pourquoi? Et puis, quel est leur rôle dans ce cas-là?
Alors, elles ont un rôle très secondaire pendant toute la partie 19e, début 20e, rôle secondaire dans l'organisation communautaire, ce qui ne veut pas dire du tout qu'elles n'ont pas de rôle. Elles ont un rôle secondaire dans la mesure où elle, par exemple, quand on considère les statistiques du monde du travail, les femmes juives travaillent comme les autres, notamment depuis le Moyen-Âge, il y en a qui travaillent dans les corails, et les corailleuses juives sont célèbres au Moyen-Âge. Mais elles ne représentent qu'une faible partie de l'ensemble de la population, à peu près 20%.
Ah oui, effectivement.
Ce qui est pas beaucoup. Mmh. Et donc ça peut expliquer en partie qu'elle ne joue pas un rôle important dans l'organisation communautaire. Mais je crois essentiellement qu'elles sont exclues de la politique communautaire parce que ce sont des femmes, essentiellement. Et leur rôle, c'est un rôle prépondérant dans la vie familiale et par conséquent dans la vie sociale. Et c'est ça qui est important parce que c'est ça qui va faire prendre conscience qu'étant un élément actif dans la vie sociale, elles vont pouvoir émerger.
Dans la vie sociale, tu
oui,
dis.
Oui, oui.
Peux...
Alors, leur rôle, on peut donner quelques explications là-dessus. Leur rôle, par exemple, elles prennent pied dans les associations de bienfaisance et dans l'éducation qui va être le vecteur de l'émancipation. Alors, sans vouloir rentrer dans un inventaire systématique qui serait ennuyeux pour nos auditeurs, je vais donner un exemple. L'exemple de l'Association des Dames Israélites de Marseille, qui a été fondée dès 1830, donc quelques années après l'installation, une génération après l'installation des consistoires en France, et qui va être revue et corrigée en 1906. Eh bien, cette association est présidée par la femme du grand rabbin. Elle compte environ 12 membres, et elle a pour objectif de venir en aide aux indigents du culte israélite en accordant plus de place aux femmes, enfants et jeunes filles en difficulté. Au début du XXe, elle vient en aide à plus de 550 personnes.
Ah, ça devient
important. Et elles interviennent dans 4 ou 5 domaines bien délimités. Elles interviennent par une aide aux indigents en nature. Alors en nature, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles entretiennent un vestiaire, elles distribuent des vêtements, elles distribuent de la layette. Ça, c'est un premier point. Et elles interviennent, deuxième point, dans le domaine de la santé, en payant des médecins qui vont s'occuper des enfants, des femmes indigentes, mais aussi en envoyant des sages-femmes pour aider aux accouchements. Toujours dans le domaine qui se rapproche de la santé, c'est celui de la mort, en entretenant une Hevra Kadisha, c'est celle qui font la dernière toilette. Et tout ça, ça ne suffit pas. Elle s'intéresse aussi à essayer de donner une formation à des jeunes filles. Alors c'est pour ça qu'elles ouvrent ce qu'on appelle des ouvroirs, où des filles déjà de 6 à 12 ans apprennent à coudre, à broder et en même temps elles fournissent un trousseau, parce que quand elles viennent à ces ouvroirs, elles constituent leur propre trousseau. Et donc si vous voulez, c'est en quelque sorte le casim avant la lettre et l'orte en même temps, puisqu'elles leur donnent un boulot. Donc voilà un exemple de ces femmes. Alors, elles rentrent aussi dans l'éducation. Alors l'éducation, elles entretiennent des écoles. Enfin, c'est pas l'association, c'est le consistoire qui entretient des écoles. Voilà pour le rôle des femmes juives jusqu'au fin 19e.
Juste une petite précision, je ne le savais pas avant, maintenant je crois l'avoir compris. Un ouvroir, c'est quoi? C'est un atelier de couture.
Voilà, pour des jeunes filles dans le besoin.
Bien, on va faire une petite pause musicale. Thank you. Je vous rappelle que sur les ondes de Radio JM, l'émission Judaïsme pluriel, vous écoutez ce soir René Drebensoussan qui nous parle du rôle des femmes juives dans l'émancipation des femmes à Marseille. Alors René, tu nous as dit quel était le rôle de ces femmes, éducation, santé, etc. Tu dis dans ton livre que l'éducation est un vecteur de modernité. Qu'en est-il à Marseille ?
Eh bien, d'abord sur le plan général, les Juifs ont pris conscience que pour sortir de l'assimilation qui les guettait, il fallait à tout prix pousser l'éducation. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est le moment où les Juifs commencent à intégrer, non pas commencent, mais veulent absolument intégrer les valeurs républicaines, puisque c'est la République, et ils vont inventer ce qu'on va appeler le franco-judaïsme, c'est-à-dire la prise en compte par la judéité des valeurs républicaines. Et celui qui est à la pointe de cela, c'est le grand rabbin Zadok Kahn, qui est extrêmement connu dans l'histoire juive. Alors, pour Marseille, la société juive marseillaise prend conscience de l'obligation de l'instruction à tous, je dis bien à tous, garçons et filles, avant même les lois de Ferry.
Qui datent de
1880, école laïque et obligatoire. Donc dès la Restauration, une école primaire israélite dispense un enseignement religieux et général. Ça, c'est la Restauration. En 1829, une école consistoriale de filles fonctionne. En 1870, d'après une enquête du consistoire central, Marseille possède 3 écoles consistoriales gratuites. Une de garçons, qui se situe rue Saint-Jacques. Une de filles, qui se situe rue de l'Ormeau. Et une salle d'asile, c'est-à-dire une école maternelle, de 50 enfants, qui se situe rue Dragon. En fait, ces écoles n'accueillent que les enfants des familles traditionnalistes et indigentes. Parce que la plupart des familles, qui ont des bourgeois, disons, préfèrent mettre leurs enfants dans les écoles laïques. Mais il y a déjà une élite, donc c'est une élite qui choisit la laïcité.
Bien, donc si j'ai bien compris, il n'y a que les enfants des familles indigentes qui vont là. Et alors, pourquoi les parents aisés envoient leurs enfants à l'école laïque? Justement pour ce franco-judaïsme?
Oui. Parce que, d'abord, elles ont l'impression qu'elles sont meilleures, et peut-être sont-elles meilleures, on n'a pas d'enquête là-dessus, mais ce que les familles bourgeoises préfèrent envoyer leurs filles et leurs garçons dans des écoles laïques, parce qu'en même temps, ça leur assure une instruction qui leur permet d'avoir après un métier, et un métier important. Mais ce qui vient se rajouter à ça, c'est que il y a certaines lois qui vont discréditer l'enseignement religieux parce que la République prend le pas sur la religion et qu'on se méfie de la religion. Et donc, rapidement, il y a cette ambiguïté des choses qui fait que, rapidement, ces écoles consistoriales connaissent des difficultés et elles sont obligées d'abandonner la partie à l'État. Et donc, à partir du moment où c'est l'État, la partie religieuse est mise en veilleuse.
Il me vient une question. La fréquentation de ces écoles laïques ne risque-t-elle pas de créer une certaine assimilation, une perte de cette identité juive ?
Absolument, et c'est ça qui fait réagir pas mal de nos élites juives à Marseille. Elles se rendent compte que l'assimilation gagne du terrain, et un des moyens utilisés pour lutter contre l'assimilation, eh bien, c'est de moderniser l'éducation et surtout de permettre à des filles de rentrer dans cette éducation pour, justement, puisqu'elles sont, elles, détentrices de l'éducation qu'elles donnent aux enfants, par ce biais, éviter une trop grande perte de nos frères.
Alors, nous sommes fin 19e. Est-ce que toutes les femmes juives acceptent de rester dans l'ombre ?
En général, elles ne font pas de vagues. Parce que, surtout, il faut bien dire qu'à l'époque, c'est une élite qui nous gouverne. Et souvent, cette élite s'arrange pour avoir des femmes extrêmement obéissantes, parce que les femmes sont éduquées comme ça. Vous avez beaucoup de femmes qui vont se rebeller ensuite, et si elles se rebellent, c'est d'abord contre l'éducation qu'elles ont reçue. On les élève pour être de très bonnes ménagères, de bonnes mères de famille, et surtout de mettre en avant leur mari, mais pas de se mettre en avant à elles. Donc, il y a cet aspect-là des choses, mais ça n'empêche pas quelques contestataires de réagir. Alors, je veux citer le cas d'une jeune femme qui est née dans une très grande famille. Elle est fille du rabbin Benjamin Mossé. Et Benjamin Mossé, c'est le rabbin d'Avignon qui imprime une revue qui s'appelle La famille de Jacob. Et cette famille de Jacob est une revue extrêmement lue dans toute la Provence. Et dans cette revue, donc, il y a une femme qui est donc une enfant de Benjamin qui dit ceci, et qui s'appelle Elisa Lisbonne, et qui dit ceci en 1860, ce qu'elle demande, ce n'est ni plus ni moins que l'introduction des femmes à tous les services du culte. Je cite, « Il est temps de reconnaître l'émancipation générale, complète de la femme israélite. Il est temps de faire cesser une anomalie de notre culte si pur. Il est temps de faire entrer la plus belle moitié du genre humain, la plus éclatante en grâce et en douceur, en modestie, dans le temple du Seigneur, et de lui restituer les droits sacrés que la religion réclame pour elle. » Donc,
disons, est en quelle année ? 1800 combien ?
1860. Pour enrichir le débat, disons que quelques années plus tard, dans une fin de siècle qui voit grandir la défense de la laïcité marquée par une baisse de la religiosité, alors il y a on assiste donc à des propositions plus ou moins révolutionnaires. Et ainsi, lors de la réunion de l'Association des rabbins en 1907, sont envisagées la réduction du quorum, c'est-à-dire du minyan, pour la prière commune et l'admission des femmes dans ce quorum. Évidemment, proposition non suivie d'effet. Mais c'est à ce moment-là qu'est créée l'Union libérale des Israélites de France, rue Copernic, et là où, justement, les femmes vont jouer un rôle.
Ce que je viens d'entendre m'étonne beaucoup, cette assemblée de rabbins qui propose ça, qui propose donc de faire rentrer les femmes dans le quorum. Le quorum, c'est le minyan,
m'as dit. Oui, c'est ça.
Aujourd'hui, on n'en est pas là.
Non, aujourd'hui, sauf dans certaines régions, dans certains pays, enfin bon, dans certaines parties du judaïsme. Mais il faut remettre ça dans le contexte. Parce que nous avons une baisse de religiosité. Et face à cette baisse de religiosité, face à la montée d'un laïcisme pur et dur, c'est un moyen de redonner vie à la religion. Et on a la même réaction en Pologne et en Israël. Par exemple, en Israël, c'est à ce moment-là que commence à poindre les écoles qu'on appelle les écoles Beth Yaakov. Les Beth Yaakov, ce sont des enseignements pour les filles.
Bon, donc, si je comprends bien, la révolution est en marche, là.
Elle était en marche, mais elle s'est vite arrêtée, hein.
Ah.
Mais la modernité, elle, est en marche avec l'éducation des filles.
Et au niveau de la politisation, est-ce que quelque chose change ou...
Eh bien, il y a une certaine politisation en douceur. Une politisation en douceur qui émerge dans la première moitié du 19e. Je dirais même dans la première moitié du 20e. Parce que, avec la loi de 1905, les consistoires se transforment en associations cultuelles ou bien continuent de subsister avec à côté une association cultuelle nouvellement mise sur pied. Et à la faveur de cette évolution, les femmes prennent rang au sein des organismes de direction. Par exemple, Madame Rosa, la femme d'une famille de banquiers très connue, est vice-présidente de l'association culturelle dès 1928. Et à cette association culturelle participe Julie Carcassonne, la fille du président du consistoire, Mademoiselle Bocara, Mademoiselle Garcin, parente de la fondatrice de l'Union des femmes juives pour la Palestine. Et plusieurs femmes sont nommées dans la composition du bureau de certaines associations qui étaient des associations d'hommes, par exemple Shema Israël. Et elles fondent elles-mêmes des associations. Mais je voudrais surtout parler de la création de cette Union des femmes juives de France pour la Palestine qui voit le jour à Paris à l'initiative de l'avocate féministe Yvonne Netter. Yvonne Netter vient souvent à Marseille pour des conférences. Et quelques années plus tard, cette société compte à peu près 400 adhérentes réparties entre Paris, Strasbourg, Colmar, Mulhouse et Marseille, où elle est fondée en 1927. Et dans les années 30, Fanny Salzer, épouse du grand rabbin, est membre d'honneur de la section marseillaise dans laquelle elle est très active. Au cours de l'année 35, l'année générale de l'Union décide la dissolution de l'association et de son intégration à la Fédération française de l'Organisation féminine sioniste internationale, en anglais la Women International Zionist Organization, ou VISO, qui existe toujours.
Je remarque, enfin peut-être que je me trompe, je ne sais pas, mais je remarque quand même que ces femmes... font les associations, qui participent, etc., sont des femmes d'hommes, je veux dire, très connues, très en pointe. Ce n'est pas Madame Tout-le-Monde, quoi.
Ah non, ce sont des élites intellectuelles, mais ça a toujours été comme ça. Trotsky, c'était le fils d'un... C'était un fils à papa. Hein. Lénine, c'est la même chose. Alors, il ne faut pas trop s'étonner.
Bon, alors... Les féministes d'aujourd'hui nous disent que l'émancipation des femmes s'est faite contre la religion. Qu'est-ce que tu en penses ?
Alors ça, c'est la vision classique que je propose de remettre en chantier. En effet, les femmes restent et furent nombreuses au sein des religions, qui restent pourtant, on est quand même pourtant sévère à l'égard de ces mêmes religions. Les femmes juives, protestantes ou chrétiennes, n'occupent qu'une place tardive dans les mouvements féministes, selon une vision aujourd'hui généralement admise. Il est devenu en effet classique de dire que le mouvement d'émancipation des femmes s'est largement construit sans les croyantes et même parfois contre elles. Comme le soulignent deux spécialistes de cette question, Florence Rochefort d'une part, et une autre que je ne citerai pas, la critique féministe dans le domaine des religions est longtemps restée cantonnée dans une approche politique et anticléricale en opposition frontale. Lors de la première vague féministe, c'est-à-dire 1900-1914, ce sont des conférencières comme Nelly Roussel, grande figure de la libre en français, qui incarnent le mouvement. Il y a bien une Marie Maugeret, qui a été fondatrice de la revue Le Féminisme Chrétien, mais très peu de femmes l'ont suivie. Et même lors de la deuxième vague féministe, c'est-à-dire les années 60-80, la place des croyantes reste modeste. Mais cette vision est à nuancer, car c'est au cœur de leurs œuvres associatives religieuses que les femmes découvrent la nécessité de se battre pour faire avancer leurs droits. Et le suffragisme marseillais plonge ses racines dans le terreau riche et profond des œuvres de bienfaisance. Et ça, c'est valable aussi bien pour les juifs que pour les non-juifs, c'est-à-dire protestantes et catholiques.
Et catholiques. Bien, on fait une petite pause. Voilà, toujours avec René Drébin-Toussaint pour parler du rôle des femmes juives dans l'émancipation des femmes en général à Marseille. Alors René, nous avons finalement dit que Enfin, je t'ai demandé si c'était vrai que cette émancipation se faisait souvent contre les religions. Tu m'as dit qu'en général, c'était vrai, mais tu as quand même un peu tempéré la chose. Alors maintenant, oui. Je vais te demander si tu peux nous donner quelques exemples.
Oh, très facilement. Il y a des femmes qui ont joué un rôle très important, comme Cécile Brunschvicg, qui a fini secrétaire d'État avec Léon Blum, avant même que les femmes n'aient le droit de vote. Mmh. Mais ces femmes, femmes juives donc, qui ont joué un rôle important, elles étaient invisibles au niveau religieux. C'est-à-dire qu'elles se battaient au nom de la laïcité. Mais elles ne mettaient jamais en avant leur appartenance religieuse. Je prends par exemple, alors que les chrétiennes, et notamment les protestantes et les catholiques, pouvaient mettre en avant leur appartenance religieuse. Les juifs, jamais. Vraiment, jamais.
Est-ce qu'il y avait une histoire, un arrière-goût de franco-judaïsme, là ?
Non, je vais expliquer. Par exemple, je disais donc de Cécile Brunschvicg. Elle est au sein de la tendance réformiste, républicaine et laïque du féminisme français. Et la question religieuse, pour elle, a été écartée du débat pour préserver une neutralité qui semblait la condition d'une solidarité entre les femmes.
Alors que les femmes catholiques, oui, ou protestantes ne craignaient pas ça.
Non, ce qui explique que les militantes ont souvent été discrètes sur leurs conventions religieuses ou anti-religieuses. Pourtant, Cécile Brunschvicg distinguait elle-même dans la mouvance du CNFF les protestantes et les catholiques et les laïcs, écartant de cette description les israélites qui pourtant formaient le gros des troupes laïques. Mmh. Donc il y a deux choses à retenir. Un, que contrairement à leurs consœurs chrétiennes, elles ne revendiquent pas l'identité juive, elles revendiquent l'identité laïque, parce qu'elle joue le jeu de la neutralité, c'est-à-dire en fait l'application de la loi de séparation des églises. Et en plus, ces juives qui se disaient donc laïques faisaient le gros des troupes des associations féministes. Mmh. Donc il y a de quoi vraiment.
C'est vraiment étonnant.
Oui, se pencher sur la question. Et je vais m'arrêter là pour te permettre de poser la question.
Mais je te demandais si tu pouvais nous donner quelques exemples.
Quelques exemples. Alors à Marseille, bien sûr. Alors je vais parler d'un exemple fameux. C'est celui de Laure Bedouc, qui ne se conduit pas autrement que ces femmes qui se proposent d'être des laïques. Alors, Laure Bedouc, c'est... Avant de commencer à donner cet exemple, je voudrais insister sur cette idée qu'elles ne revendiquent pas leur identité juive. Non seulement elles ne revendiquent pas cette identité juive, mais encore leur action féministe se situe toujours en dehors des institutions. Mmh. Donc, il y a des filles qui jouent dans la maison et elles jouent la société, etc. Et il y a des femmes qui jouent hors de la maison, et celles-là, elles revendiquent les droits, l'égalité des droits politiques.
Elles sont sorties définitivement de la
maison ?
Non,
elles sont, personnellement, elles continuent d'être juives. Mmh. Mais dans leur action féminine se situe en dehors des institutions juives.
Mmh. D'accord.
Elles vont créer des associations féminines, etc. C'est le cas de Laure Bedouc.
Alors, parle-nous de Laure Bedouc.
Alors, Laure Bedouc est née à Oran, 1887. Elle va mourir à Paris chez sa fille en 1970, donc il n'y a pas si longtemps que ça.
C'est pas vrai.
Elle est féministe et militante. Alors, elle s'appelle Lor Zagda Eva. C'est la fille unique d'Isaac Bedouk, juif d'Algérie, et d'Esther Gabrielle Lyon, israélite du Comtat. Peu après sa naissance, le couple se sépare et la mère et la fille rejoignent Marseille. Donc, Lor est élevée à Marseille. Elle épouse Adolphe Julien, non-juif, sous-lieutenant au 35e colonial, et sa fille, née un an après, c'est Françoise, plus exactement Claudine. Mais Françoise, on la connaît, c'est celle qui va devenir Françoise Seligman, qui a été la sénatrice bien connue. Donc, à ce moment-là, Lor, refusant de suivre son mari appelé en Indochine, met fin, dit-elle, à sa carrière conjugale.
Oui. Juste une petite parenthèse, oui. René. Finalement, on peut se poser la question de savoir si elle était vraiment attachée à sa religion, puisqu'elle l'a fait un mariage mixte. Donc, ça ne l'a pas gênée outre mesure de faire un mariage mixte. Tu m'as dit que son mari n'était pas juif.
Non, mais elle est restée juive tout le temps. D'ailleurs, on la voit dans le dictionnaire des Marseillaises. On a une photo d'elle en costume de juif algéroise.
Ah, d'accord.
Ouais, le jour de ses fiançailles.
Ah oui.
Oui, elle est restée juive. Elle en a souffert aussi, puisque en 40, elle va être expulsée de son travail.
Bon, je t'ai coupé la parole, continue.
Donc, ayant obtenu le brevet pour l'enseignement primaire, elle va fonder une école commerciale exclusivement féminine. Ça, c'est son premier acte. Elle est ensuite nommée professeure de sténodactylo à l'école primaire supérieure Edgar Quinet, puis surveillante à Michelet, où elle reste jusqu'en 1940. Elle occupe d'autres places, d'autres postes, au lycée de jeunes filles, à la Bourse du Travail, à la Société de Sténographie, à l'École pratique de commerce et d'industrie des jeunes filles. Donc, c'est une professionnelle du travail féminin. Elle est fondatrice d'écoles féministes et elle est en même temps journaliste. Elle écrit dans le Petit Provençal et laisse déjà des articles montrant son engagement pour l'émancipation politique de la femme. Elle est aussi engagée pour l'éducation des filles, ce qui l'a conduit à créer l'Alliance des jeunes filles sténographes un peu avant la Première Guerre, mais c'est surtout son combat féministe qui l'a fait connaître. Alors, elle s'engage pour le suffrage des femmes. En 1912, elle fonde la section locale de l'Union française pour le suffrage des femmes, premier groupe féministe de Marseille, dont la présidente est une protestante, Eugénie Fraissinet, qui est femme de pasteur et mère de 6 enfants. Lor est secrétaire générale de cette organisation, qui est féministe modérée, jusqu'en 1940, année de la promulgation du statut des Juifs. Et pendant la Première Guerre mondiale, et ça c'est important, pendant la Première Guerre mondiale, comme beaucoup d'associations féministes, l'Union française pour le suffrage des femmes met ses revendications en veilleuse. Elles ne seront reprises que dans les années 20. Quant à Lor, pendant cette guerre, elle tente d'impulser des organisations syndicales capables de défendre les femmes. Donc, en 1924, Lor devient secrétaire générale de la Fédération féministe du Midi. Et après le nom des sénateurs, parce que ce sont les sénateurs qui ont refusé le droit de vote aux femmes alors que l'Assemblée l'avait accepté. Elle signe de sa plume pétillante des feuillets féministes, c'est le nom de ses articles, feuillets féministes au Petit Provençal. Et elle publie pendant une dizaine d'années près de 250 articles expliquant inlassablement le pourquoi du vote féminin. Je la cite, « Si la femme a le droit et le devoir de voter, c'est avant tout parce qu'elle est mère. Le droit de suffrage ne détruit pas le mariage et la famille. Il permet à la femme à qui la maternité confère une conscience morale supérieure, d'être partie prenante de la politique sociale du pays. Et donc, voilà un peu. Et puis, elle va être aussi une des premières adhérentes de l'Union féminine pour la Société des Nations. En 24, elle constitue le premier club féminin de Marseille. En 29, les sénateurs continuent à refuser. Et elle va, avec le soutien de Germaine Poinceau-Chapuis, créer ce qu'on appelle le Soroptimiste Club, qui a pour objectif la valorisation professionnelle, qui existe toujours d'ailleurs, valorisation professionnelle et intellectuelle de la femme. Mais alors, ce qui différencie ces femmes féministes dites modérées, c'est qu'en fait, elles pratiquent un féminisme de la différence.
Ça veut dire ?
C'est-à-dire qu'il faut quand même insister sur les différences de sexe. Alors qu'aujourd'hui, on a largement dépassé, parce que avec le gender system, qui nie totalement les sexes.
Oui. Mmh. Oh, l'égalité des sexes.
Voilà.
Oui.
Non, même pas égalité. Tu es femme, tu le deviens femme.
Ah oui, oui, non,
tu
mais
es pas
ça, c'est
femme
gender.
par ton sexe. Mmh. Donc. Et le groupe adhère à différentes organisations, sociales, morales, etc. Ça, c'est l'engagement majeur politique de l'or. Mais il y en a un autre qu'on connaît très peu. C'est l'engagement pour l'éducation sportive des filles. Dès 1921, au mois de février, apparaît dans le paysage marseillais une société sportive exclusivement féminine, l'Athéna Sport. C'est pour ça que d'ailleurs ça s'appelle l'Athéna. L'Athéna étant la déesse grecque. Qui est une émanation des milieux enseignants et féministes. Et Laure est à l'origine la secrétaire et la trésorière. Le but, c'est de réunir les jeunes filles, des dames employées dans les bureaux, magasins, ateliers, et de leur faire pratiquer des exercices physiques et le sport. Mmh. Donc il y a un double aspect, un aspect social, parce que ne pas oublier quand même que la pensée marxiste est triomphante à cette époque, et le sport. En 24, l'Athéna Sport compte à peu près 70 membres. Elle est affiliée à la Fédération Féminine Sportive. Elle a deux monitrices, un terrain de jeu qui se situe avenue Flotte, une salle de gymnastique au 80 en rue de Rome. Mais en 1940, Laure est évincée de son établissement scolaire. Elle rejoint sa fille à Lyon et elle sera sauvée in extremis de la déportation grâce à l'intervention de Germaine Poinceau-Chapuis.
Alors, voilà. J'ai bien écouté tout ce que tu as raconté. D'abord, j'ai l'impression que ce profil de Laure Bedouc, c'est pas un profil ordinaire. Je veux dire, c'est une femme qui est combattante jusqu'au bout des ongles.
Ah oui, c'est une militante.
C'est une militante féministe.
Oh. C'est une militante féministe. Et tu peux retrouver certaines militantes féministes comme elle dans d'autres catégories de religion ou de culture.
Oui.
Mais bon, ces femmes avaient énormément de trempe et surtout, elles avaient envie de faire progresser et faire arriver les femmes, tout en ne niant pas la différence des sexes. Oui. Alors qu'aujourd'hui, c'est autre chose encore.
Alors, il y a une autre chose aussi qui me fait réfléchir un peu. C'est que cette femme a créé énormément d'associations sportives et autres, et écoles, etc. Mais elle est féministe et elle ne va faire que des actions uniquement pour les filles. Jamais elle n'aurait pu penser dire « je vais faire, les filles n'étaient pas acceptées, je vais faire par exemple une école où il y aura des garçons et des filles ».
Non, parce qu'à l'époque d'abord il n'était pas question de la mixité dans les écoles.
Mm-hmm.
La mixité ne viendra que 50 ans après. Ça c'est une chose. Et deuxième chose, l'élément faible, le maillon faible de la société à l'époque, c'était les femmes, c'était pas les garçons.
Oui.
Les garçons, ils étaient portés comme des rois. Qu'est-ce que tu veux qu'elles fassent de plus ?
Bon, très bien. C'est un point de vue. Alors, pendant les années noires de l'occupation,
oui.
Est-ce qu'il y a eu des actions? Oui, tu voulais parler d'eux.
Oui, j'aurais voulu citer le cas d'une autre femme rentrée en politique, mais je vais juste la citer. Mmh. C'est Benjamine Esdras.
Oui.
Benjamine Esdras, qui a été conseillère municipale de la ville de 45 à 61, qui est elle aussi issue d'une vieille famille comtadine, les Mossés. Et sa mère était fille du rabbin d'Avignon, le rabbin Benjamin Mossé. Voilà, simplement, je voulais dire ça sur Benjamin Esdra, et je t'écoute.
J'ai une petite question encore. Cette fille-là, qui est issue d'un rabbin, finalement, quelle était l'action, la position de ce rabbin devant...
Ah, très moderne. Ah. Benjamin Mossé était très moderne.
Très moderne.
Dans sa revue, c'est évident qu'il faisait parler beaucoup de gens et il était d'un modernisme assez extraordinaire.
Mmh. Et celui aussi est un cas un peu particulier,
oui.
Alors.
Oui.
Bon, alors, pendant la période noire de l'occupation, est-ce qu'il y a eu d'autres actions de femmes?
Oui, alors j'ai cité deux exemples fameux, mais je pourrais en citer d'autres qui ont joué un rôle. Mais il se trouve qu'on est dans une configuration un peu particulière au moment de la montée du nazisme. Je ne dirais pas simplement de la Deuxième Guerre, je dirais du montée du nazisme. À ce moment-là, on reçoit du sang neuf qui nous vient d'Europe centrale. Des filles qui, comme Hélène Tesch, comme Shura Chacham, comme Hélène Kogolian, comme Julia Pirot, ont connu une politisation très jeune. Par exemple, Hélène Tesch et Hélène Kogolian, elles rentrent dans le parti communiste, elles sont bessarabiennes, hein, elles viennent de Bessarabie ou de Serbie pour la deuxième. Elles rentrent dans le parti communiste et elles sont actives dès l'âge de 13-14 ans. Et donc, elles se font connaître de la police, je vais résumer brièvement, elles se font connaître de la police, et l'une risque d'aller en prison, l'autre risque d'être enfermée aussi. Et donc, elles se sauvent de leur pays. Alors, pour Hélène Kogolian, elle arrive à 17 ans, Marseille. Pour Hélène Tesch, non, elle va à Paris, elle va ensuite à Anvers, où elle apprend un métier de métallurgiste, etc. Mais ces filles amènent, ensuite, quand elles viendront à Marseille, elles amènent une force de politisation, une force de militantisme qui va déteindre sur les autres, c'est évident. Mmh. Et donc, voilà pourquoi elles sont des féministes aussi. Mais, encore une fois, Hélène Kogolian, non. Mais Hélène Tesch, oui. Elle milite au sein d'un parti. Elle milite au sein d'une obédience autre que l'obédience juive. Ce n'est qu'après qu'elles reviennent au judaïsme.
D'accord.
Et donc, c'est comme ça qu'elles arrivent à faire avancer les choses.
Bien, il nous reste 2-3 minutes. Tu peux conclure ?
Oui. Oui, c'est un peu court, mais enfin, je vais le faire, puisque tu le demandes.
Ah, bravo, René, c'est bien.
Hein, c'est bon, hein.
Alors, on t'écoute.
On peut conclure, d'une manière très succincte, que les femmes juives apparaissent davantage dans la sphère publique au 19e, dans un contexte général qui les porte. L'industrialisation du part, les progrès de la laïcité, de la culture, de l'éducation pour tous, expliquent en grande partie cette évolution. Mais pas seulement. Les femmes juives se sont engagées très tôt dans la voie de leur propre émancipation, qui se confond parfois avec l'émancipation des travailleurs en général, et alors elles militent dans un parti, une association, oubliant leur identité spécifique, ou plus exactement, la repoussant dans une zone d'ombre sans la perdre. C'est le cas de Benjamin Esdras, c'est le cas de Lorbe Duc, c'est le cas de réfugiés d'Europe comme Hélène Tesch ou Shura Chacham.
Si je comprends bien, elles ont gardé quand même leurs racines.
Elles ont gardé leurs racines qu'elles revendiquent haut et fort, mais après la guerre.
Après la guerre, très bien. Eh bien, moi, je revendique la possibilité de te remercier, René, pour tout ce que tu nous as appris ce soir. Et chers amis, on se retrouvera la semaine prochaine. Merci René, merci à tous pour votre écoute. Et à bientôt. Et puis merci à Olivier qui nous a suivis. Bonne soirée.
C'était Judaïsme Pluriel, chaque mercredi de 20h à 21h. Merci, bonsoir et à la semaine prochaine.